Chapitre 7. Un parfum de paix. Bien des jours, Thomas pleura. En silence, la joue posée sur l'oreiller. Les larmes coulaient doucement, puis imprégnaient sa taie en flanelle. La froideur du chagrin absorbée par la douceur du tissu. Pas d'effusion, pas de rage. Ou alors tout intérieur. De celle qu'il est inutile de crier puisque personne n'écoute. Une colère monstre contre le destin. Une soif de vengeance aussi. Thomas l'a éprouvé au début, mais contre qui? Personne n'est responsable. La faute a pas de chance. À un ensemble de facteurs. À ces choses que la société engendre sous couvert de progrès ou de gains financiers sans se demander si ce sera délétère pour l'homme. Personne n'est responsable et tout le monde à la fois. Alors contre qui se venger? Et puis, pourquoi? Thomas a vite compris que la vengeance ne supprime pas la colère. Il préfère donc la disséminer sur les chemins de forêt, dans les arbres, dans les flaques et les fougères. Dans toute cette nature immense qui n'a que faire des émotions humaines et qui offre en retour et sans condition la paix d'un vent qui souffle et de feuilles qui bruissent. Il troque sa rage et l'insupportable injustice contre de belles images à transmettre à Simon pour qu'il oublie le reste. Les perfusions, les nausées, les douleurs dans le ventre, dans le dos, dans les jambes, chaque jour, à chaque instant et depuis des semaines. Un enfant de 8 ans n'a pas à vivre tout ça. Et pourtant, il l'affronte. Ça n'aurait pas pu tomber plus tôt sur un sale type pour le rendre inoffensif. Il y a pourtant l'embarras du choix. À croire que la méchanceté protège. L'insupportable injustice. Thomas, c'est Simon qu'il doit protéger. Son amour, son petit. Tous deux liés par le cœur et par le sang. Le jeune homme est bien résolu à l'extirper du réel, chaque jour. Au moins le temps de l'endormir, pour l'aider à sauter dans ses rêves, lavé de la journée et sans conscience du lendemain. Il inspire profondément sous son masque en papier, saisit la main de l'enfant allongé sur le lit, installe un sourire dans ses yeux, seule partie visible de son visage, et commence. Notre projet de refuge avance, tu sais. J'y travaille dès que je peux. Mais j'espère que tu vas vite sortir de l'hôpital pour continuer à m'aider. Tu te souviens quand nous en avons eu l'idée? Bah oui, quand on a trouvé une oie sauvage blessée dans le champ à la sortie du village. On l'avait emmenée au refuge des oiseaux dans le Reed, et tu m'avais dit qu'on ferait pareil pour les animaux de la forêt derrière chez nous. Exact. Eh bien, je les ai entendus la nuit dernière. Les oies sauvages? Oui, elles remontent vers le grand marais sauvage du Nord. Norvège, Suède, Finlande. Tu ne les as pas entendues ici? Non, rien du tout. Il y a trop de bruit dans l'hôpital. On les écoutera ensemble de chez nous, quand elles repartiront cet automne, puisqu'elles passent 2 fois par an. Elles n'en ont pas marre de faire le voyage. Elles n'ont pas le choix. Il leur faut bien trouver un endroit accueillant pendant les grands froids. Mais comment elles font pour faire un si long voyage? Elles sont courageuses et résistantes. Elles peuvent faire 600 km d'une traite en volant 10 heures d'affilée. Comme quand on part en vacances et que maman n'a pas envie de faire pipi. Les oies peuvent faire pipi en vol. C'est un indéniable avantage. Cela dit, la voiture ne bat pas des ailes. Avec l'essence, ça roule tout seul. Les oies, c'est une autre histoire. C'est quand même un sacré marathon. Mais elles ont une technique bien à elles. Tu te souviens, il y a 2 ans? Nous en avions vu en fin de journée. Elles volaient en V. La première oie fait beaucoup d'efforts pour fendre l'air, mais les autres derrière profitent chacune des remous liés au battement d'ailes de la précédente. Elles doivent fournir moins d'énergie que si elles volaient seules. Elle doit être super forte, la première! Quand elle est à son poste. Mais elle se relaie régulièrement. Comme les cyclistes du Tour de France. Et puis, elles sont gentilles entre elles. Les plus faibles restent à l'arrière pour se préserver et les plus solides prennent la direction des opérations. Moi, je resterai derrière en ce moment, soupire Simon. Bientôt, tu pourras prendre la tête, j'en suis sûre. Je t'ai déjà raconté l'histoire de Niels Holgersson. Oui, mais c'est pas grave. Je veux bien que tu me la racontes de nouveau. Alors file sous les draps et ouvre grand tes oreilles. Nous partons en voyage en Suède.